Au lieu de soutenir les hôpitaux, il nous faudra tout faire pour les fermer. Tout ceci, ce qu'enseigne la théologie moderne, est vrai que Dieu veut que certains de ses fidèles adorateurs restent malades pour sa gloire. Alors Jésus, au cours de son ministère terrestre, n'a pas hésité à priver son Père de toute la gloire possible, en guérissant tous ceux qui venaient à lui. De même, le Saint-Esprit a privé le Père de toute la gloire possible en guérissant tous les malades dans les rues de Jérusalem. Paul, lui aussi, a privé Dieu de toute la gloire possible en guérissant tous les malades de l'île de Malte. Beaucoup de gens affirment aujourd'hui que Dieu afflige même ses enfants obéissants, parce qu'il les aime. Ils font de la maladie un don d'amour de notre Père céleste. Si cela est vrai, pourquoi font-ils tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de ce don d'amour? Pourquoi le malade déjà atteint d'un cancer ne demande-t-il pas une nouvelle bénédiction de ce genre pour lui-même, ou ne prie-t-il pas pour que Dieu bénisse aussi de la même manière sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses voisins, etc. Est-ce que Dieu ne châtie pas parfois ses enfants en permettant une maladie? Certainement oui, lorsque nous désobéissons à Dieu, il peut permettre à la maladie de nous frapper, et Dieu nous discipline ainsi dans son amour. Mais le Seigneur nous enseigne clairement comment éviter une telle situation. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11 31-32. Ces châtiments nous atteignent pour nous épargner le jugement final. Mais si nous discernons la raison de ce châtiment, et si nous nous en détournons, Dieu promet que nous ne serons plus châtiés. Dès que nous nous jugeons nous-mêmes, et que nous apprenons la leçon, la promesse absolue est que nous ne serons pas jugés. En nous jugeant nous-mêmes, nous pouvons éviter le châtiment. La guérison divine n'est pas promise sans condition aux chrétiens, sans considération de leur conduite. Elle est pour ceux qui croient, et qui obéissent. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Psaume 25 10-13. Son attitude présente est démontrée par le fait que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3-8. Pensez à tout ce qu'il a dû subir pour quitter le ciel et passer par cette transition affreuse qui a consisté à prendre une forme humaine, et à connaître toutes les souffrances et les sacrifices qui ont suivi. Quelle motivation l'a donc poussé à accepter tout cela? L'Écriture nous donne la réponse: il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cette mission incluait la guérison de tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Actes 10-38. Depuis que Jésus a été glorifié, athée, il renonçait à cet objectif, qui était le sien lorsque sa sueur devint comme des grumeaux de sang, à Gethsémané, et lorsqu'il subit toutes les atroces tortures du calvaire. Veut-il que les œuvres du diable continuent à se manifester dans notre corps, alors qu'il les détruisait lorsqu'il était sur la terre? Se peut-il qu'il veuille laisser un cancer, une plaie, une malédiction, une œuvre du diable, dans un membre de Christ, dans un corps qui est le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas sa volonté de guérir tous les membres du corps de Christ? Sinon, pourquoi a-t-il commandé aux malades de recevoir l'onction d'huile en son nom pour être guéri? Puisque le corps est pour le Seigneur, et qu'il est un sacrifice vivant offert à Dieu, ne préférerait-il pas qu'on lui présente un corps en bonne santé, plutôt qu'une loque? Sinon, comment peut-il nous rendre parfaitement propres à toute bonne œuvre, pour accomplir sa volonté? C'est la volonté expresse de Dieu que nous puissions abonder en toute bonne œuvre, être préparés pour toute bonne œuvre, zélés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Est-ce seulement réservé aux hommes et aux femmes en bonne santé? Si c'est pour tous, alors il est nécessaire que Dieu guérisse les malades pour que nous puissions accomplir ses bonnes œuvres, car personne ne peut le faire s'il est confiné dans une chambre par la maladie. Le salut concerne tout notre être. 14. Son attitude présente est révélée par la signification même du mot salut. Le mot grec duquel il est traduit, sotéria, a le sens de délivrance, préservation, guérison, santé. Dans le Nouveau Testament, ce mot s'applique parfois à l'âme, et parfois au corps seulement. Le verbe grec sozo est parfois traduit par sauver, mais il signifie aussi guérir, donner la santé, rétablir. Dans Romains 10:9, il est traduit par sauver, Et dans Actes 14:9, le même mot est traduit par guéri, à propos de la guérison de l'homme qui était boiteux de naissance. Le même mot est utilisé en grec pour désigner le salut de l'âme et la guérison du corps, car il s'agit en fait d'une guérison spirituelle et d'une guérison physique. Paul, dans Éphésiens 5:23, déclare que Jésus est le sauveur du corps. Ceci est-il vrai pour certains seulement, ou pour tous? Scofield, dans l'un des commentaires de sa Bible, consacré au mot « salut », dit ceci: « Le salut est l'un des termes fondamentaux de la Bible, qui réunit en lui tous les actes et processus de la rédemption. » Le salut, par conséquent, signifie que nous pouvons entrer en possession de toutes les bénédictions révélées par les sept noms rédempteurs de Dieu. En réalité, ces noms nous ont été donnés pour nous montrer tout ce que notre salut comporte. C'est donc l'évangile de la guérison du corps, tout comme celui de la guérison de l'âme, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1:16. Mais juifs et grecs ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10:12. Chapitre 4 : La compassion du Seigneur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, 8, 9. Lorsque nous étudions le thème de la compassion du Seigneur, nous y découvrons, à mon avis, une révélation complète de la volonté du Seigneur de guérir les malades. Au cours de son ministère terrestre, Jésus était constamment ému de compassion, et guérissait tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et c'est ce même Jésus qui, après avoir dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », est à présent assis à la droite de Dieu, afin d'être pour nous un souverain sacrificateur miséricordieux, compatissant et fidèle. Dans les Écritures, compassion et miséricorde ont le même sens. Le même mot hébreu, « rachamin », est traduit par « miséricorde » et par « compassion ». De même, le verbe grec « eleo » est aussi traduit par « avoir miséricorde » et « avoir compassion ». L'adjectif grec « eleemon » est également traduit par « miséricordieux et compatissant ». Avoir compassion signifie aimer tendrement, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. La plus grande caractéristique de Dieu, c'est l'amour. La citation en tête de chapitre commence par ces mots: « L'Éternel est miséricordieux et compatissant ». Ces sentiments qui caractérisent la nature de Dieu sont constamment exprimés dans les Écritures. La plus grande caractéristique de la nature de Dieu, c'est son amour. Les plus claires descriptions que font les Écritures de notre Père Céleste concernent son amour, sa miséricorde et sa compassion. Rien, dans tout ce qui décrit le caractère de Dieu, ne stimule autant la foi. Au cours de nos campagnes de réveil, j'ai vu la foi atteindre le sommet des montagnes lorsque cette vérité de l'amour et de la compassion actuelle de Dieu commençait à pénétrer dans l'esprit et le cœur des auditeurs. Ce n'est pas ce que Dieu peut faire qui inspire la foi, mais ce qu'il désire ardemment faire. En démontrant universellement sa compassion, par la guérison des malades, Jésus a dévoilé au peuple le cœur compatissant de Dieu, et les multitudes venaient à lui pour être secourues. Oh, combien Satan a manœuvré insidieusement pour cacher cette vérité au peuple. Il a répandu partout cette croyance antiscripturaire, illogique et éculée, que l'âge des miracles était passé, au point qu'il a presque réussi à effacer l'idée de la compassion de Dieu des pensées des hommes. La théologie moderne exalte davantage la puissance de Dieu que sa compassion. Elle néglige cette grande vérité que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste en notre faveur, envers nous qui croyons. Éphésiens 1:19. Mais la Bible ne dit pas ce que dit la théologie. Elle exalte la volonté de Dieu de déployer sa puissance en notre faveur, plus que sa puissance proprement dite. Nulle part la Bible ne dit que Dieu est puissance, mais elle dit expressément que Dieu est amour. Ce n'est pas la foi en la puissance de Dieu qui nous permet d'obtenir ses bénédictions, mais la foi en son amour et en sa volonté. L'amour de Dieu est voilé par la théologie moderne. Le passage cité au début du chapitre dit que Dieu est miséricordieux. Cela signifie qu'il est disposé à donner des faveurs. Cette glorieuse vérité, qui resplendit avec tant de clarté dans toutes les Écritures, a été éclipsée par la théologie moderne, qui proclame partout que le Seigneur est capable, au lieu de dire qu'il est miséricordieux. Des centaines de malades sont venus nous voir ou nous ont écrit. Ils nous ont dit qu'ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Mais les enseignements qu'ils avaient reçus, tout comme leur manque d'enseignement, les avaient empêchés de savoir que le Seigneur voulait les guérir. Quelle foi faut-il pour dire le Seigneur est capable? Le diable sait que Dieu est capable. Il sait aussi que Dieu veut guérir, mais il a empêché les hommes de connaître cette vérité. Satan veut bien que nous exaltions la puissance de Dieu, parce qu'il sait très bien que cela ne suffit pas à produire la foi. Mais il sait que notre connaissance de la compassion et de la volonté de Dieu suffisent à la produire. Avant de prier pour la guérison des malades, nous devons attendre de leur enseigner la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'ils puissent dire le Seigneur est miséricordieux, au lieu de dire le Seigneur est capable. C'est exactement ce que Jésus a dû faire avant de guérir le lépreux qui lui disait « Si tu le veux, tu peux ». Jésus a démontré sa volonté de guérir cet homme, avant que ce dernier puisse réellement s'attendre à cette guérison. Dans le message précédent, nous avons présenté de nombreuses preuves bibliques démontrant la volonté du Seigneur de guérir aujourd'hui. Mais il ne suffit pas encore de dire « Dieu le veut », au lieu de « Dieu le peut ». Dire que Dieu le veut, c'est encore utiliser une expression trop faible pour exprimer pleinement l'attitude miséricordieuse de Dieu envers nous. Il prend plaisir à la miséricorde, Michée 7:18. Le texte hébreu dit en réalité il se délecte à faire miséricorde. Son attitude est mieux exprimée dans 2 Chroniques 16:9 car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ce passage nous montre que le Seigneur est non seulement désireux, mais ardemment désireux de déverser ses bénédictions à profusion sur tous ceux qui lui permettent de le faire. L'Éternel étend ses regards, c'est-à-dire qu'il recherche constamment des occasions de manifester son cœur compatissant, parce qu'il se délecte à faire miséricorde. La bienveillance est le grand attribut de Dieu. Si vous voulez donc lui plaire, ôtez les obstacles qui l'empêchent d'exercer sa bienveillance. Il est infiniment bon, et toute sa nature est éternellement consacrée à déverser ses bénédictions sur ses créatures, chaque fois qu'elles lui permettent, ce qui est possible à chacune. Supposez que le vaste océan Pacifique soit transporté au-dessus de la Terre. Imaginez la pression qu'il exercerait pour faire pénétrer ses flots dans chaque interstice du sol, et vous pourriez avoir une idée de ce qu'est l'attitude bienveillante de Dieu envers nous. Un sérieux défi lorsque vous serez suffisamment éclairé. Cher lecteur, je vous défie sérieusement de vous mettre dans la position où la miséricorde de Dieu pourra vous atteindre, sans qu'il ait à violer les glorieux principes de sa loi morale. Puis attendez et vous verrez si vous n'allez pas recevoir la plus merveilleuse démonstration de son amour et de sa miséricorde. Les bénédictions viendront sur vous comme un fleuve, jusqu'à ce que vous atteigniez les limites de votre attente. Corneille s'est placé dans la position où la miséricorde de Dieu a pu l'atteindre, en disant à Pierre « Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire » Actes 10:33. Il a découvert la grandeur de la bonté de Dieu, au point que le Seigneur n'a même pas attendu que Pierre finisse son message. Dès que Pierre eut parlé suffisamment pour créer en eux la foi, la bénédiction est descendue. Dieu n'est pas seulement capable, mais il est désireux de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Son amour est tellement grand qu'il ne peut pas se contenter de bénir tous les saints de l'univers, mais qu'il veut aussi bénir ses ennemis dans la terre entière. Il me semble que Dieu préférerait encore que nous doutions de sa capacité, plutôt que de sa bienveillance. Je préférerais rencontrer un homme qui me dise « Frère Bozo Hort, je sais que vous m'aideriez si vous le pouviez, plutôt que je sais que vous pouvez m'aider, mais je n'ai aucune confiance en votre désir de m'aider. » Le texte d'introduction, je le répète, dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Quand je pense à la manière dont Dieu remplit tellement nos cœurs de son tendre amour, lorsque nous intercédons pour les autres et que nos cœurs sont trop pleins de soupirs pour que nous puissions les exprimer des soupirs inexprimables, je me demande, avec un étonnement respectueux, à quel point la compassion du Seigneur doit être grande. La compassion d'une mère pour son enfant qui souffre la rend non seulement désireuse de le soulager, mais aussi de souffrir à sa place, si elle ne peut pas arriver à le soulager. Le mot grec sympathe traduit par compassion signifie souffrir avec quelqu'un. C'est pourquoi Esaïe dit: dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours. Esaïe 63:9. N'est-il pas étrange que sa merveilleuse compassion envers les malades, si clairement comprise et reçue dans les temps enténébrés de l'Ancien Testament, soit négligée et repoussée dans notre meilleure dispensation? Alors que la route est actuellement ouverte pour que nous puissions bénéficier des plus grandes manifestations possibles de sa miséricorde, pour tous nos besoins. Le cœur bienveillant de Dieu atteint tout le monde. Le texte d'introduction, après avoir montré la grandeur de sa compassion, dit encore: l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. En d'autres termes, il est tellement rempli de compassion qu'il ne peut pas favoriser telle ou telle personne en accordant ses bienfaits. Lui qui ne peut pas satisfaire son cœur bienveillant en bénissant ses saints, mais qui étend ses miséricordes aux pécheurs de la terre, comment pourrait-il refuser la bénédiction de la guérison à l'un quelconque de ses propres enfants obéissants? Quelle étrange doctrine, qui prétend que les malades ne pourraient pas obtenir autant miséricorde, dans notre ère de grâce, que les prophètes et les rois ont désiré connaître, et que les anges désirent sonder, que les malades des âges précédents, qui étaient moins éclairés que nous. Dieu serait-il davantage disposé à accorder le bienfait du pardon aux enfants du diable, que d'accorder le bienfait de la guérison à ses enfants? En réalité, il aime ses enfants malades bien plus qu'il n'aime les pécheurs. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103:13. Le chrétien malade peut dire, avec Salomon: il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. 2 Chroniques 6:14. Tous les sentiers de l'Éternel, et pas seulement certains, sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Psaume 25:10. Quelques exemples de la compassion du Seigneur. Regardons à présent quelques passages des évangiles, qui nous montrent la compassion du Seigneur. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié et l'on venait à lui de toutes parts. Marc 1:40-45. Nous voyons que c'est la compassion qui a poussé Christ à guérir le lépreux. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 14:13-14. Dans ce passage, comme partout ailleurs, il était rempli de miséricorde pour tous ceux qui avaient besoin d'être guéris, et que c'était sa compassion qui le motivait. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: pitié et compassion de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela, et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Mu de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. Matthieu 1:2934. Ces aveugles ont crié miséricorde pour être guéris de leur cécité, et Jésus leur a accordé la grâce de la guérison, prouvant ainsi que la guérison est une grâce, tout comme le pardon. Les malades, en ces temps-là, lorsqu'ils voulaient être guéris, demandaient miséricorde. De nos jours, la plupart des gens pensent que la miséricorde du Seigneur concerne seulement le pécheur, ignorant que sa miséricorde s'étend aussi aux malades. Dieu est le Père des miséricordes. Paul qui appelle Dieu le Père des miséricordes, le prouve en guérissant tous les malades de l'île de Malte. Jésus a dit « Heureux les miséricordieux les compatissants, car ils obtiendront miséricorde » Matthieu 5:7. Job a été guéri après qu'il eut prié pour ses amis. Conformément à la béatitude que nous venons de citer, il a obtenu miséricorde en faisant miséricorde. Faisant référence à la guérison de Job, Jacques 5:11 dit « Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et il poursuit en donnant des instructions à l'Église « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et se taira. » En d'autres termes, c'est parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion que les malades de l'Église, comme Job, peuvent obtenir leur guérison. Ayant pourvu à tous nos besoins, Jésus dit encore aujourd'hui, comme il l'a dit à ces deux aveugles, « Que voulez-vous que je vous fasse en ?» Le résultat du témoignage d'un seul homme. Lisons à présent Matthieu 15:30-31, et voyons quel a été le résultat du témoignage d'un seul homme, témoignage donné pour faire connaître la compassion du Seigneur. Cela se passait dans la Décapole. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ce n'était pas leur maladie, comme certains l'enseignent aujourd'hui, mais leur guérison, qui poussait ces grandes foules à glorifier le Dieu d'Israël. Quelle grande gloire reviendrait à Dieu, et quelle bénédiction recevrait le monde, si chaque prédicateur annonçait clairement les promesses bibliques concernant la guérison des malades chaque fois qu'un malade serait guéri. Il publierait à son tour la compassion du Seigneur dans toute sa décapole en peu de temps, des milliers et des milliers de malades obtiendraient leur guérison par la foi en Jésus-Christ. Il serait encore dit que les multitudes glorifient le Dieu d'Israël. Les adeptes de la haute critique théologique et les modernistes deviendraient vite impopulaires, et les sectes qui pratiquent de fausses méthodes de guérison ne détourneraient plus de l'Église ces multitudes qui sont actuellement prises dans leur filet. Ce n'est pas un crime de publier la bonté du Seigneur. Il est dit dans l'Évangile que le démoniaque de Gadara est allé publier la compassion du Seigneur. Certains s'opposent à nous et écrivent des articles contre nous, parce que nous publions les témoignages de ceux qui ont été miraculeusement guéris. Quel est le problème? Quel mal faisons-nous en obéissant au commandement du Seigneur, qui demande de faire connaître ses œuvres parmi le peuple? Puisque Jésus est mort pour nous ouvrir la voie de ses bienfaits et pour répondre à tous les besoins des hommes, nous devrions certainement accepter de les leur annoncer en lisant certains des articles et des livres qui ont été écrits. On pourrait penser que c'est un crime d'annoncer à tout le monde que le Seigneur est plein de compassion. Remarquez, dans le passage cité ci-dessus, que l'on venait à lui de toutes parts, à mesure que sa réputation se répandait au loin, à cause des miracles et des guérisons qu'il accomplissait. Les foules le suivaient à pied hors des villes, et de grandes multitudes venaient à lui. Des multitudes, des multitudes, des multitudes partout, il en est de même aujourd'hui. Dès qu'il est connu, dans une ville, que ce même Jésus guérit toujours les malades, dès que l'on obéit à son ordre de faire connaître ses œuvres parmi le peuple, et dès que sa compassion est publiée, les foules viennent de toutes parts. Je n'ai jamais rien vu de plus puissant, pour briser tous les obstacles, et pour attirer les foules, que la manifestation de la compassion du Seigneur dans la guérison des malades. Dans nos campagnes de réveil, nous avons constaté, dès que le Seigneur manifeste sa compassion en guérissant les malades, que les foules viennent de toutes parts, de toutes les églises, méthodistes, baptistes, catholiques, adeptes de la science chrétienne, spirites, juifs, riches et pauvres, de toutes parts des multitudes entendent l'Évangile et donnent leur vie à Dieu. Elles ne seraient jamais venues à ces réunions s'il ne s'était pas produit des miracles et des guérisons pour révéler la compassion du Seigneur. Les effets des guérisons qui se passent aujourd'hui. Si Christ et ses apôtres ne pouvaient pas attirer des multitudes sans accomplir des miracles, se peut-il qu'ils nous le demandent? Au lieu de dire que le ministère de guérison empêche les gens de s'intéresser aux problèmes plus importants du salut de l'âme, nous avons vu plus de merveilleuses conversions en une seule semaine, que dans toute une année d'efforts d'évangélisation, au cours des 13 années où je ne prêchais pas cet aspect de l'évangile d'une manière hardie et publique. Dès que commencent nos campagnes de réveil, des centaines de personnes accourent devant l'estrade chaque soir, pour donner leur cœur et leur vie au Seigneur, et des villes entières commencent à parler de Jésus. D'autres évangélistes, qui ont assisté à nos réunions, vérifient à présent que cela est également vrai dans leurs propres réunions. Dans le dernier de nos réveils, à Ottawa, au Canada, juste avant la rédaction de ce livre, au cours des 6 semaines de réunion, 6 000 personnes sont venues demander la guérison, et près de 12 000 ont accepté le salut. Je me demande s'il y aurait eu plus de 1 000 personnes converties, si aucune guérison n'avait démontré la compassion du Seigneur. La ville et la région d'Ottawa ont été secouées comme jamais auparavant au cours de leur histoire, et l'on a observé dans cette capitale du Canada les plus grandes foules jamais rassemblées pour des réunions religieuses. Elles remplissaient le nouvel auditorium, le plus grand bâtiment de cette ville. L'auditoire est monté à 10 000 personnes pour une seule réunion. Avant même que nous quittions la cité, des centaines de témoignages écrits nous sont parvenus, envoyés par tous ceux qui avaient été guéris, ou qui étaient en train d'être guéris, de presque toutes les maladies et les infirmités possibles. À Dieu en revienne toute la gloire. Les guérisons sont un puissant moyen d'évangélisation. Un évangéliste baptiste, parmi bien d'autres évangélistes qui constatent à présent cette vérité, a écrit, dans l'un des 10 traités qu'il a publiés sur ce sujet, que la guérison était le plus puissant moyen d'évangélisation jamais utilisé par le Seigneur, et qu'il ne retournerait pas à ses anciennes pratiques pour tout l'or de l'Amérique. Lisons à présent un autre passage qui nous parle de la compassion du Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité après leur avoir donné les instructions suivantes : allez, prêchez, guérissez les malades. Matthieu 9, 35 à 18. Nous voyons ici que sa compassion pour les malades commençait à être si bien connue que la moisson était devenue trop grande pour un seul moissonneur. Son cœur compatissant souffrait de voir des foules de plus en plus grandes qui ne pouvaient pas l'atteindre, parce qu'il était pressé de trop près. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'était comme s'il ne pouvait lui-même s'occuper que d'une partie de cette foule, et que sa compassion pour les multitudes, qui grandissaient rapidement, le poussait à envoyer d'autres ouvriers, pour prêcher et pour guérir. De tels ouvriers sont peu nombreux aujourd'hui, alors que la moisson est vraiment plus abondante que jamais. Ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner est exactement ce qu'il veut que l'on fasse et que l'on enseigne aujourd'hui. Au lieu de finir une œuvre, comme le disent les modernistes, il était en train de commencer quelque chose, qu'il avait promis de poursuivre et de développer. Non pas l'évangile frelaté du XXe siècle, mais l'évangile qu'il a proclamé, et dont il a dit qu'il serait prêché dans le monde entier. Une étrange modification de la promesse de Jésus. Dans Jean 14, 12, 13, Jésus a promis, avec insistance, que la même miséricorde et la même compassion pourraient toucher les foules, par nos prières, alors qu'il est à présent notre souverain sacrificateur dans le ciel. En réalité, il partit pour permettre à sa compassion de se manifester sur une plus grande échelle. Ésaïe a prophétisé sur lui : il se lèvera ou il sera élevé pour vous faire miséricorde. Ésaïe 30, 18. Jésus a dit : il vous est avantageux que je m'en aille. Ceci ne serait pas vrai si son départ avait diminué, ou même modifié, sa compassion qui le poussait à guérir les malades. N'est-il pas étrange que beaucoup de prédicateurs renversent aujourd'hui cette promesse de Jésus, qui avait dit que ceux qui croient en lui feraient les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes encore, en enseignant que le temps des miracles est passé? D'autres aboutissent au même résultat en enseignant que Dieu veut que certains de ses enfants fidèles restent malades pour sa gloire, ou bien d'autres doctrines traditionnelles et antibibliques. Tout homme qui enseigne que la guérison n'est pas pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui, comme dans le passé, enseigne en fait que la compassion de Jésus-Christ envers les malades n'est plus la même depuis qu'il est monté au ciel. Puis encore, d'autres enseignent qu'il n'exerce plus aucune compassion dans le domaine de la guérison des malades. Pour moi, c'est un mystère de voir qu'un prédicateur puisse prendre une telle position, qui voile et empêche la manifestation du plus grand attribut de Dieu, sa compassion, qui n'est autre que l'amour en action. Lorsque Paul lance son appel le plus ardent à la consécration, il dit : Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Romains 12:1. Il savait que ses compassions étaient la manifestation du plus grand attribut de Dieu. Deux questions importantes. Jésus a dit : Quand l'Esprit de vérité sera venu, il me glorifiera. Jean 16:13 14. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait glorifier Christ auprès des malades, en leur disant que le temps des miracles est passé, ou que Jésus, depuis son ascension, a terminé ou modifié son ministère de guérison, alors qu'il nous a lui-même promis que nous ferions ses œuvres, et même de plus grandes, pendant notre dispensation actuelle? Le Saint-Esprit est-il venu pour glorifier Christ en modifiant son ministère auprès de ses enfants malades et souffrants, alors que Jésus est leur souverain sacrificateur? Ce serait totalement contraire à ce qu'il faisait en guérissant les foules de la Décapole, qui glorifiait pour cela le Dieu d'Israël. Si c'était le cas, alors nous aurions raison de prier comme cela se fait souvent, en demandant que les malades aient la force et la patience de supporter leurs afflictions. C'est après être devenu notre souverain sacrificateur que le Seigneur Jésus s'adresse par cette fois aux églises, en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les hommes disent aujourd'hui beaucoup de choses que le Saint-Esprit n'a jamais dites, et qui sont même opposées à ce qu'il dit. Voici ce que le Saint-Esprit dit, entre autres choses: pour glorifier Jésus-Christ en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, compatissant et fidèle. Hébreux 2:17. Nous avons déjà dit que les mots miséricordieux et compatissant sont deux traductions du même mot grec eleemon, traduit ici par miséricordieux. Ce verset ne fait pas référence à la compassion de Christ alors qu'il était sur la terre. Il fait uniquement référence à son ministère actuel dans le ciel, et au fait que son incarnation avait pour but de lui permettre de nous manifester sa compassion, lorsqu'il serait notre souverain sacrificateur après être retourné au ciel. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel est exactement ce qu'il a promis de continuer et de développer après son départ, parce que sa compassion n'a pas changé. Le Saint-Esprit glorifie aussi Christ en disant que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir maintenant à nos faiblesses. Hébreux 4:15, qu'il peut sauver ou guérir parfaitement ceux qui s'approchent maintenant de Dieu par lui. Hébreux 7:25. Et qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13:8. Adorons-le, parce que sa compassion est la même aujourd'hui, parce qu'il est toujours ému de compassion, et qu'il désire toujours ardemment nous secourir, lorsqu'il voit toutes nos infirmités. Bien entendu, nous reconnaissons que, grâce à Dieu, beaucoup de ceux qui ne croient pas à la guérison divine coopèrent effectivement avec le Saint-Esprit en ce qui concerne la tâche bien plus importante d'amener des âmes au salut. Mais ce serait merveilleux, si tous les prédicateurs et les chrétiens, au lieu de dire que le temps des miracles est passé, acceptaient de coopérer avec le Saint-Esprit en proclamant également aux malades la compassion de Christ, ce qui permettrait au Saint-Esprit de glorifier le Seigneur Jésus au lieu d'être comme ce sacrificateur et ce lévite qui sont passés sans s'intéresser aux blessés. L'Église, dans Jacques 5, a reçu l'ordre d'être un bon samaritain, et de répondre avec compassion aux besoins physiques des malades et de ceux qui souffrent, en bandant leurs plaies, et en versant sur elles le baume de l'huile et du vin, la parole et l'Esprit de Dieu. Car il envoya sa parole et il est guéri par la puissance de l'Esprit. Jésus a annoncé le malheur aux scribes et aux pharisiens, pour avoir négligé ce qui était le plus important, c'est-à-dire la miséricorde et la fidélité ou la foi. Au chapitre 5 des Actes, nous trouvons une autre preuve merveilleuse que la compassion du Seigneur Jésus envers les malades est toujours la même aujourd'hui. Car nous lisons, « En ce qui concerne les foules de malades qui étaient amenées dans les rues de Jérusalem, après l'ascension de Jésus auprès du Père, que tous étaient guéris. » C'est en tant que notre souverain sacrificateur dans les cieux que Jésus agissait, exactement comme il le faisait lorsqu'il était sur la terre. Étant dans le ciel, il est toujours ému de compassion, pour guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris. Même au dernier chapitre des Actes, nous le voyons manifester sa compassion, depuis le ciel, en guérissant tous les malades qui étaient sur l'île de Malte. Étant notre souverain sacrificateur, sa compassion est si grande qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Depuis que Jésus a été glorifié, nous voyons encore que sa compassion pour les malades l'a poussé à donner à l'Église des dons de foi, de miracles et de guérison, pour que les malades soient guéris, car il est notre souverain sacrificateur pour les siècles des siècles. Les dons de guérison ont à présent autant d'importance que dans le ministère terrestre de notre Seigneur. Même ceux qui n'ont pas un ministère d'anciens peuvent prier pour les malades. C'est la compassion actuelle de Jésus qui l'a motivé, en tant que souverain sacrificateur et chef de l'Église, à commander aux anciens, et même à ceux qui n'ont pas un ministère d'anciens, de prier la prière de la foi pour guérir tout malade Jacques 5. Tous ceux qui ont pour tâche de transmettre la parole de vie devraient constamment présenter cette directive au peuple de Dieu, aussi longtemps que ce dernier est lui-même confronté à la maladie. Même pendant son ministère terrestre, notre merveilleux Seigneur n'a pas hésité à accepter tous les sacrifices, et même à supporter la malédiction, pour que sa compassion puisse atteindre les plus indignes et les plus insolents de ses ennemis. Les grumeaux de sang de Gethsémané et les horribles tortures du calvaire n'étaient que les manifestations de son infinie compassion. Il est allé au calvaire en rendant son visage semblable à un caillou, Ésaïe 57. Même après avoir été trahi par le baiser de Judas, qui le livrait à ses bourreaux, et après que Pierre eut coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus guérit l'oreille de son ennemi, et dit à Pierre de remettre son épée dans son fourreau. Lui-même a remis, pour ainsi dire, sa propre épée dans son fourreau, en refusant de céder à une impulsion toute naturelle de son âme sainte, et en refusant de prier son Père. Car, s'il avait prié, il aurait pu être secouru aussitôt par 12 légions d'anges, et échapper ainsi à l'agonie de la croix. Mais il n'y aurait eu alors pour nous, créatures déchues, avec tous les besoins de notre esprit, de notre âme et de notre corps, qu'un trône de jugement, et non un trône de miséricorde. Par son œuvre accomplie à la croix, il a ouvert la route à sa miséricorde, pour qu'elle puisse répondre à tous nos besoins. Il était, et il est toujours, ému de compassion pour tous ceux qui ont besoin de celui qui est présent, qui pourvoit, qui donne la paix, la victoire, qui est notre berger, notre justice, et notre médecin. Ce sont là les sept bénédictions qu'il nous a accordées en acceptant de passer par la tragédie de la croix, et qui nous sont révélées par ces sept noms rédempteurs. Son alliance de guérison, comme toutes les autres alliances, nous est accordée en vertu de sa compassion, et il est celui qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime de Théronome 7-9. Comment ne pas faire souffrir le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus souffre lorsqu'on ignore, ou qu'on doute de son amour et de sa compassion. C'est cela qui l'a fait pleurer sur Jérusalem. Les prédicateurs ont si souvent proclamé aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de miracles, que les miracles ne sont que des moyens de prouver la divinité du Seigneur Jésus, et ce trahil m'est arrivé de leur dire si vous aviez un cancer qui vous rongeait le visage, vous auriez besoin d'un miracle, n'est-ce pas? La plupart des gens aujourd'hui sont tellement peu éclairés sur ce sujet qu'il ne leur vient jamais à l'esprit que la miséricorde existe aussi pour les malades. Ils ne pensent jamais que les dons des guérisons et des miracles sont des manifestations de la compassion de Christ, ni qu'il a passé son temps, jour après jour, pendant 3 ans, à guérir tous ceux qui venaient à lui, à cause de sa compassion. Est-ce que les besoins de ceux qui souffrent ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'au temps de Jésus? N'ont-ils pas tout autant besoin de compassion qu'autrefois? Nous pensons aux malades innombrables qui sont désespérés, qui subissent une agonie tellement intense que la mort serait pour eux une délivrance, et auxquels les médecins, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, sont obligés de dire « je ne peux plus rien faire pour vous ». Comme il est précieux de savoir que la compassion de Christ, à chaque instant, est toujours exactement la même que pendant les 3 années de son ministère d'amour sur cette terre, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons totalement nous appuyer. Nous avons démontré que la guérison du corps est un acte de miséricorde que Christ, qui a manifesté la volonté du Père, est prêt à accorder partout à tous ceux qui la recherchent. Nous connaissons cette claire déclaration que le Seigneur est plein de compassion pour tous ceux qui l'invoquent, y compris les malades, parce que sa miséricorde dure à toujours, éternellement, et que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ces passages de l'Écriture ne règlent-ils pas la question ? Au lieu de dire que le temps des miracles est passé, dites « il est écrit ». Chapitre 5 : Comment saisir la guérison ? Note : ce message répète certains des arguments présentés dans les chapitres précédents. Ceci est volontaire, pour que ce chapitre puisse présenter à lui seul suffisamment de matière pour créer la foi. Nous faisons ceci en pensant à tous ceux qui pourraient avoir besoin de la prière de la foi, sans avoir le temps de lire le livre tout entier. Première étape. La première étape pour être guéri est la même que la première étape pour être sauvé, ou pour obtenir n'importe quelle autre bénédiction promise par Dieu. Le malade doit savoir ce que la Bible enseigne clairement, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu de le guérir, jusqu'à ce qu'il ait achevé de vivre le nombre d'années qui lui étaient imparties. Chaque malade doit lui-même être convaincu par la parole de Dieu que sa guérison est la volonté de Dieu. Car il nous est impossible d'avoir une foi véritable pour la guérison, aussi longtemps que nous avons le moindre doute quant à la volonté de Dieu. Il est impossible de revendiquer hardiment par la foi une bénédiction, si nous ne sommes pas certains que Dieu veut la donner, car la puissance de Dieu ne peut être invoquée que lorsque la volonté de Dieu est connue. Par exemple, il est presque impossible d'amener un pécheur à croire au salut, tant que vous ne l'avez pas pleinement convaincu que c'est la volonté de Dieu de le sauver. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La foi ne doit s'appuyer que sur la volonté de Dieu, et pas sur nos souhaits ou nos désirs. Une foi vivante ne se contente pas de croire que Dieu peut, mais qu'il veut. Ceux qui prétendent croire à la guérison, mais qui disent une parole en sa faveur, et 10 paroles contre, ne peuvent pas créer la foi pour la guérison. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Quand Dieu nous commande de prier pour les malades, il s'attend à ce que notre prière soit faite avec foi. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas sa volonté en la matière. Quand nous savons que c'est sa volonté, il ne nous est pas difficile de croire qu'il va faire ce que nous sommes sûrs qu'il veut faire. C'est ainsi que toute personne sauvée a reçu le miracle encore plus grand de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons rien saisir par la foi, tant que nous ne connaissons pas, par l'Évangile, ce que Dieu nous a donné. Aucune doctrine n'est plus clairement enseignée, dans toute la parole de Dieu, que celle qui affirme que l'expiation de Christ nous a acquis à la fois le salut et la guérison du corps, et que c'est la volonté de Dieu d'ôter les maladies de ses enfants, et de remplir le nombre de leurs jours, selon sa promesse Exode 23-25-26. Les exemples qui nous sont présentés dans Lévitique 14 et 15 nous montrent que c'était toujours par une expiation que la maladie était guérie, sous la loi de Moïse. C'est pour cela que Matthieu 8-17 déclare de manière formelle que Jésus a guéri tous les malades en vertu de son expiation. Ce passage nous montre que si Jésus ne faisait aucune exception quand il guérissait les malades qui le pressaient, c'était à cause de l'expiation qu'il allait accomplir pour toute la race humaine, y compris pour vous. Lorsque de vastes multitudes se pressaient autour de lui pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie, il est constamment dit, dans tous les évangiles, qu'il les guérissait tous. Lisez Matthieu 4:24, 12:15, 14:14, Luc 4:40, Actes 10:38. Il n'était pas possible qu'il fasse des exceptions. Pourquoi ? Parce qu'il allait prendre sur lui, par l'expiation qu'il allait accomplir, nos maladies et nos douleurs. Puisqu'il a porté nos maladies et nos infirmités, Il est nécessaire que tous soient guéris pour que s'accomplisse pleinement cette prophétie. Dieu a pris soin d'utiliser un langage clair, et il faudrait que nous en tordions le sens pour nous exclure nous-mêmes de cette bénédiction. Ce que le calvaire offre est pour tous. Le moyen que Dieu utilise pour sauver une âme, pour guérir un corps, ou pour faire tout ce qu'il veut faire, est d'envoyer sa parole, sa promesse, puis d'accomplir sa promesse chaque fois qu'elle produit la foi. La procédure divine de guérison est exposée dans ce verset. Il envoya sa parole, et il les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Psaume 107:20. C'est la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient, et qui est santé pour tout leur corps. Voir 1 Thessaloniciens 2:13 et Proverbe 82. Tout comme une petite fille à la foi qu'elle aura une nouvelle robe en entendant sa mère lui promettre qu'elle lui en achètera une le samedi suivant. Ainsi, notre foi en la guérison vient lorsque nous entendons la parole de Dieu, qui nous promet de nous guérir. La foi de cette petite fille, comme la nôtre, vient de ce qu'elle a entendu la promesse. On ne pourrait pas demander à cette petite fille d'avoir la foi pour une nouvelle robe, tant que sa mère ne lui a pas fait la promesse. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison ou le salut, ou pour n'importe quelle autre bénédiction, tant que nous n'avons pas entendu la parole et la promesse de Dieu. Comment quiconque peut être justifié par la foi, si personne ne lui prêche la parole? Et comment quiconque peut être guéri, si personne ne lui prêche? Ce sont les Écritures qui peuvent rendre les hommes sages à salut. Nous devons comprendre que le Créateur et le Rédempteur de notre corps est aussi son médecin, avant d'avoir des raisons de nous attendre à une guérison. Quand Christ nous commande de prêcher l'Évangile à toute créature, il veut dire par là que nous devons annoncer la bonne nouvelle de la rédemption. Nous avons déjà vu que ces 7 noms rédempteurs nous révèlent tout ce que notre rédemption comprend. Il a bien d'autres noms, mais seulement 7 noms rédempteurs. Ces 7 noms ne sont utilisés dans les Écritures que pour caractériser les rapports entre Dieu et les hommes. 7 noms, parce que 7 est le chiffre de la perfection. Notre Seigneur est un parfait sauveur, et sa rédemption répond à tous nos besoins. Toutes les bénédictions révélées par ces 7 noms sont comprises dans la rédemption. Ces 7 noms appartiennent tous sans conteste à Christ, et c'est sous chacun de ces 7 noms qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Le serpent d'airain est une préfiguration de Christ. Dieu avait promis aux Israélites qui étaient en train de mourir de la morsure des serpents que tous ceux qui étaient mordus seraient guéris s'ils regardaient le serpent d'airain, qui représente le sacrifice du calvaire. Si la guérison du corps n'était pas comprise dans l'expiation faite par Jésus, pourquoi Dieu aurait-il demandé à ces Israélites mourants de regarder à une préfiguration de l'expiation, pour obtenir leur guérison physique? Leur malédiction a été ôtée lorsque cette préfiguration de Christ a été élevée le serpent d'airain sur la perche. De même, notre malédiction est ôtée depuis que Christ a été élevé sur la croix. Puisque le Saint-Esprit nous a été donné pour faire vivre Christ en nous, pourquoi ne regarderions-nous pas à Christ lui-même avec la même foi qui animait les Israélites, lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain? Remarquez bien qu'ils ne pouvaient pas regarder en même temps leurs symptômes et le serpent d'airain. Abraham s'est fortifié dans la foi en gardant les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Certaines personnes font l'inverse, et leur foi diminue parce qu'elles regardent leurs symptômes et oublient la promesse. Puisque Dieu les a guéris en leur envoyant sa parole, seul fondement de notre foi, nous passerons à côté de la guérison si nous permettons à nos symptômes de nous empêcher d'attendre ce que sa parole nous promet. La seconde étape consiste à bien vous assurer que vous êtes en règle avec Dieu, car les bénédictions qui nous sont acquises par la rédemption sont conditionnelles. Après avoir entendu l'Évangile, et tout ce qu'il offre, nous devons aussi considérer cette parole de Jésus : repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seuls ceux qui sont en règle avec Dieu peuvent suivre ses instructions. Quand nous recherchons la guérison de notre corps, nous ne devons faire aucun compromis avec l'adversaire de nos âmes, parce que c'est lui qui est l'auteur de nos maladies. Jésus peut détruire les œuvres du diable dans notre corps même si nous pratiquons encore ses œuvres dans notre âme, mais il n'a pas promis de le faire. Il est difficile d'exercer la foi pour détruire une œuvre de Satan dans notre corps, si nous permettons à une œuvre bien pire de se faire dans notre âme. Si nous ne réglons pas définitivement le problème de notre obéissance au Seigneur, nous ne sommes pas sur le terrain de la foi. Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. » C'est la volonté de Dieu que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66:18. C'est lorsque nos cœurs ne nous condamnent pas que nous avons de l'assurance devant Dieu. L'ordre donné aux malades de faire appeler les anciens de l'Église s'adressait à des chrétiens qui avaient été remplis de l'Esprit. Il y a quelque chose d'anormal quand on désire avoir la bénédiction mais pas celui qui bénit, quand on veut sa miséricorde mais pas lui-même. Il n'est pas juste de rechercher sa miséricorde tout en rejetant sa volonté. Ne demandez pas une petite bénédiction tout en rejetant une plus grande. Il est impossible de recevoir et de rejeter en même temps les bénédictions divines. Dieu attend de pouvoir dire à la maladie et à Satan ce qu'il a dit à Pharaon « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve » Exode 7:16. Notre premier souci, en toute chose, et même quand nous demandons la santé pour notre corps, devrait être la gloire de Dieu. Notre seule motivation, lorsque nous recherchons la guérison auprès du Seigneur, doit être d'obtenir la force nécessaire pour le servir. L'onction d'huile accompagnant la prière pour la guérison est elle-même un symbole et un signe de consécration. Nous devons désirer notre santé pour la gloire de Dieu. Ruben A. Thore a écrit: que signifie donc l'onction d'huile? Regardez à Lévitique 8:10-12, et vous y verrez la réponse de Dieu. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Cela signifie qu'il les mit à part pour Dieu. L'onction d'huile au nom du Seigneur était un acte de consécration et de dédicace. Cela impliquait de la part de celui qui recevait l'onction une entière consécration à Dieu. Il devait lui consacrer ses mains, pour travailler pour Dieu et lui seul, ses pieds, pour marcher pour Dieu et lui seul, ses yeux pour voir, ses lèvres pour parler, ses oreilles pour entendre, pour Dieu et lui seul. Tout son corps était destiné à être le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Le Saint-Esprit nous demande de nous soumettre à Dieu avant de résister au diable, parce que personne ne peut résister au diable avec succès s'il ne s'est pas d'abord soumis à Dieu. Quand on résiste ainsi au diable, il ne se contentera pas de nous quitter tranquillement. Il s'enfuira littéralement loin de vous. Jacques 4:7. La malédiction, qui comprenait les différentes maladies énumérées dans Deutéronome 28, est venue sur le peuple parce qu'ils n'ont pas obéi et servi Dieu avec joie et de bon cœur. Deutéronome 28:47. C'était la condition de leur cœur qui avait fait venir sur eux les maladies mentionnées dans ce chapitre. Il ne faut pas garder notre cœur dans cette condition si nous voulons que ces maladies partent. En d'autres termes, si la condition de leur cœur était responsable de la malédiction, à cette époque, il ne faut pas que nos cœurs soient aujourd'hui dans la même condition, si nous voulons que le Seigneur enlève la malédiction. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui lui obéissent. Le Seigneur n'accorde les désirs de leur cœur qu'à ceux qui font de lui leur délice. Psaume 37:4. Dieu n'a pas diminué ses exigences en notre temps de la grâce. Ce n'est qu'à ceux qui lui obéissent, à ceux qui écoutent attentivement la voix de l'Éternel, et qui font ce qui est droit à ses yeux, que le Seigneur promet de n'envoyer aucune de ses mauvaises maladies. Voir Deutéronome 7:15 et Exode 15:26. La foi vient quand notre cœur et notre volonté sont unis au cœur et à la volonté de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas cette unité, l'exaucement est impossible. C'est une loi spirituelle très importante, que nous négligeons pour notre malheur. Le Seigneur dit « Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal ». Ce sera la santé en hébreu, une médecine pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3:7-8. La foi implique toujours l'obéissance. Paul écrit aux Éphésiens d'obéir au premier commandement auquel est associée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6:3. Il a fallu que Naaman cède et obéisse complètement à la parole de Dieu, avant d'être guéri. C'est à ceux qui marchent dans l'intégrité que Dieu ne refuse aucun bien. Psaume 84:11. Par conséquent, avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, vous devez accepter de vous soumettre au premier et au plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, car Dieu dit: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91:14. Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Deutéronome 7:9. Par conséquent, comme le lépreux, venant à lui pour l'adorer, lorsque nous lui demandons de nous guérir. Dans sa droite la sagesse est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Proverbe 3:16. Épouse la sagesse, et tu jouiras de ses richesses. La sagesse est ici représentée par une très belle reine, qui est en ses mains chargée de bénédictions vers ceux qui acceptent de se soumettre à son autorité. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16:9. Un cœur calme ou sain est la vie du corps, mais l'envie est la caride et ose. Proverbe 14:30. Un cœur agité ou malsain est pire qu'un estomac malsain, une âme malade est pire qu'un corps malade. Une volonté déréglée est pire qu'un foie déréglé. Paul dit: le corps est pour le Seigneur, avant d'ajouter: le Seigneur est pour le corps. La Bible enseigne que notre corps a été racheté à grand prix. C'est pourquoi nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6:20. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Présentez-lui donc votre corps si vous voulez être guéri. Il n'a promis de le guérir que s'il devient sa propriété. Il faut d'abord venir à la croix pour être purifié. Voici le chemin le plus sûr pour le malade: d'abord à la croix pour être purifié, ensuite à la chambre haute pour recevoir le don du Saint-Esprit, puis sur la montagne pour y recevoir sa mission, et, enfin, au pied du grand médecin pour recevoir la force de le servir. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8:11. En Christ, le vrai cep, nous trouvons toute la vie dont nous avons besoin pour notre âme et notre corps. Mais nous ne pouvons posséder et jouir de cette vie que par notre union avec le cep. C'est en lui, et non pas en dehors de lui, que nous avons tout pleinement. Colossiens 2:10. La substitution sans l'union ne suffit pas pour que nous possédions et jouissions de la vie du cep. Si vous avez besoin d'un miracle, accordez-vous avec celui qui accomplit les miracles. Nous jouissons de la vie du cep en étant parfaitement unis au cep. Si nous demandons la guérison tout en refusant d'être conduits par le Saint-Esprit, cela revient à demander à un charpentier de réparer notre maison, tout en lui refusant d'entrer dans la maison. Et ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14:36. Vous ne pouvez pas le toucher avec réticence. Comme cette femme qui se fraya un chemin au travers de la foule compacte pour le toucher, vous devez jouer des coudes pour vous frayer un passage, et écarter résolument l'égoïsme, la désobéissance, les péchés non confessés, la tiédeur, la crainte du candidatéon, les traditions des hommes, les articles écrits contre la guérison divine, souvent l'opinion de votre propre pasteur, qui peut ne pas être éclairé sur ce point, les doutes, l'indécision, les symptômes, les sentiments, et les mensonges du serpent. Le Saint-Esprit, qui doit manifester dans notre vie les bénédictions de la rédemption, est notre consolateur et notre aide. Il est prêt à nous aider à nous frayer un chemin au travers de tous ces obstacles, jusqu'à l'endroit où nous pourrons toucher le Seigneur et lui présenter nos besoins. Dieu attend de déverser pleinement son Esprit Saint sur nous, car le Saint-Esprit est venu en tant qu'officier ministériel de Christ, pour concrétiser dans notre vie toutes les bénédictions qui nous ont été acquises au calvaire, et qui nous sont garanties par ses 7 noms rédempteurs. Il est encore vrai aujourd'hui que tous ceux qui le touchent sont guéris. Comment pouvons-nous le toucher? en croyant à sa promesse. C'est le moyen infaillible de toucher Christ pour recevoir tout ce qu'il a promis. Nous le touchons en lui présentant notre prière, et en croyant qu'il entend notre prière au moment où nous prions. Quand la femme l'a touché, ce fut sa foi qui l'a guéri. Ce ne fut pas seulement le contact physique, car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Des millions de pécheurs l'ont touché de cette manière, pour recevoir le miracle encore plus grand de la nouvelle naissance. Pas un simple contact, mais une union. De même que les malades le touchaient et étaient guéris, lorsque Jésus marchait sur cette terre, ainsi, nous pouvons aujourd'hui avoir le même privilège en le touchant, et cet attouchement nous unit à Christ d'une manière plus profonde qu'auparavant. Ce n'est pas un simple contact, mais une union aussi réelle que celle qui existe entre le sarment et le cep. Tout ce qui est dans le cep, que ce soit sa vie spirituelle ou sa vie physique, nous appartient, à nous qui sommes les sarments. Le toucher ainsi par la foi peut nous placer aujourd'hui sous la pleine autorité du Saint-Esprit, qui est celui qui accomplit les miracles. Ceci ne pouvait pas être fait de la même manière pendant le ministère terrestre de Christ, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Le ministère de Jésus, en tant que sauveur et divin médecin, n'est pas moindre depuis qu'il est glorifié. Il est plus grand. Nous obtenons de plus grands privilèges, en le touchant aujourd'hui, que ceux qui le touchaient quand il était sur la terre, parce que nous pouvons recevoir davantage en le touchant. Parce qu'il est à la droite de Dieu, il a davantage à donner. C'est pourquoi il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Puisque le Saint-Esprit est venu révéler Jésus d'une manière qu'il n'était pas possible d'expérimenter avant que Jésus ne soit enlevé pour nous envoyer l'Esprit, pourquoi ne pouvons-nous pas nous approcher de lui pour être guéris, avec une foi au moins aussi grande que la foi de ceux qui le pressaient à l'époque? Nous voyons donc l'importance capitale du fait d'être en règle avec Dieu avant de demander la guérison. Le fait d'être en règle avec Dieu donne une bénédiction mille fois plus désirable et profitable que la guérison proprement dite. J'ai vu des malades rayonner de bonheur, mais aussi des pécheurs en parfaite santé être tellement malheureux qu'ils se sont suicidés. La troisième étape. Nous allons à présent entreprendre d'expliquer clairement comment recevoir la guérison et nous l'approprier. Obtenir quelque chose de Dieu ressemble à un échange sportif entre deux partenaires. Quand un joueur a joué, il n'a plus rien à faire tant que l'autre personne n'a pas joué. Chacun joue à son tour. Ainsi, Dieu nous a d'abord accordé la guérison, comme toutes ses autres bénédictions, et il nous a envoyé sa parole. Il nous faut jouer avant qu'il joue à nouveau. Notre part consiste à nous attendre à recevoir ce qu'il promet au moment où nous prions, ce qui nous poussera à mettre notre foi en action, avant de pouvoir constater la guérison. Parce que la guérison est l'œuvre de Dieu, et il ne la manifestera que quand c'est à son tour de jouer. Dieu ne joue jamais quand ce n'est pas à son tour de jouer, mais il ne manquera jamais de jouer quand c'est à lui de jouer. Quand Noé a été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, sa part a consisté à croire que le déluge allait se produire, et à mettre sa foi en action en construisant l'arche sur la terre sèche. Ainsi, lorsque le Seigneur dit à un malade « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera », celui-ci, comme Noé, est divinement averti des choses qu'il ne voit pas encore, et il doit faire comme Noé, c'est-à-dire croire et agir en conséquence. Notre nature déchue est gouvernée par ce qu'elle voit, par ses sens, mais la foi n'est gouvernée que par la pure parole de Dieu. Elle n'est rien d'autre que le fait d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis, et de considérer le Seigneur comme une personne honnête. Quand je parle d'attente, je ne veux pas parler de l'espérance. Quelqu'un a dit justement « Nous espérons ce qui peut se produire, mais nous attendons ce qui doit se produire avec une assurance qui ferme la porte au doute et à l'échec, et qui fait preuve d'une inébranlable confiance. » La foi n'attend jamais de voir pour croire, parce qu'elle vient de ce que l'on entend, des choses que l'on ne voit pas encore, et elle est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il suffit à un homme de foi de savoir que Dieu a parlé. L'âme est alors dans une parfaite certitude. Ainsi parle l'Éternel suffit à tout régler. La foi n'a besoin que d'un. Il est écrit, la foi souffle toujours de la trompette avant que les murailles ne s'écroulent, et non après. La foi ne juge jamais d'après ce que les yeux voient, parce qu'elle est la démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais qui sont promises. La foi s'appuie sur un terrain bien plus solide que l'évidence des sens. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, qui demeure éternellement. Nos sens peuvent nous tromper, mais la parole de Dieu ne nous trompera jamais. Quand on promet à une petite fille une robe neuve pour le samedi suivant, la foi est l'attente qui habite entre le moment où la promesse lui est faite, et le samedi suivant. Lorsqu'elle peut voir sa robe neuve, le samedi suivant, sa foi pour la robe disparaît. Elle n'en a plus besoin. Mais une foi vivante produit toujours les œuvres ou les actions correspondantes. C'est la foi de la petite fille qui lui fait battre des mains et dire « chic chic, je vais avoir une robe neuve samedi prochain ». Elle court alors annoncer à ses copines qu'elle a eu la réponse à sa demande. Dieu ne peut pas mentir. Jésus, devant le tombeau de Lazare, a levé les yeux au ciel, et a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé » Jean 11:41. Pourtant, Lazare était encore mort. La petite fille n'a pas peur de témoigner à l'avance qu'elle va avoir une nouvelle robe. Lorsque ses copines lui demandent pourquoi elle sait qu'elle va en avoir une, elle répond avec confiance « Mais c'est maman qui me l'a promise. En ce qui vous concerne, vous avez de meilleures raisons pour vous attendre à une guérison que celle de cette petite fille pour s'attendre à une robe neuve, parce que sa mère peut mourir avant le samedi suivant, mais Dieu ne peut pas mourir. Sa mère peut lui mentir, mais pas Dieu. Leur maison peut brûler avec les économies de la maman. Toute attitude de foi, tout au long de l'histoire, a toujours été une ferme certitude, produite par la seule promesse de Dieu, et suivie d'une action correspondante, avant qu'il y ait quoi que ce soit de visible pour encourager cette certitude. Tout comme pour la petite fille, entre la promesse et le samedi suivant. La foi ne regarde pas aux choses visibles. Aucun déluge n'était en vue lorsque Noé bâtissait son arche. Des murailles de pierre ne s'étaient jamais écroulées au son des trompettes et des cris des hommes. Les Hébreux attendirent simplement ce que Dieu avait promis. Ils mirent leur foi en action en soufflant dans les trompettes, alors que les murs étaient encore debout. C'était à leur tour de jouer. Ensuite, bien entendu, ce fut à Dieu de jouer à son tour, et les murailles s'écroulèrent. Tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux a été écrit pour montrer comment ceux qui avaient la foi ont agi entre maintenant et samedi. Les actes de foi sont tellement agréables à Dieu qu'il a rapporté en détail de nombreux cas dans le chapitre 11 des Hébreux. C'est par la foi que Noé a agi de telle et telle façon. C'est par la foi que Jacob a agi de telle et telle façon. C'est par la foi que Joseph, que Moïse ont agi de telle et telle façon. C'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées. C'est par la foi qu'Abraham a agi de telle et telle façon, alors que tout semblait contraire à la promesse de Dieu. Ce fut en gardant les yeux fixés sur la promesse de Dieu et non sur sa stérilité que Sarah reçut la force de devenir mère, alors qu'elle en avait dépassé l'âge. Ils ont tout mis leur foi en action, alors qu'ils n'avaient que la parole de Dieu comme seule raison d'attendre ce qu'il leur avait promis. Il en est de même pour tous les actes de foi rapportés par l'histoire. Les symptômes de Jonas étaient très réels lorsqu'il était dans le ventre du poisson, et il ne les a pas niés. Mais il les a appelés de vaines idoles. En d'autres termes, tout symptôme qui veut nous faire croire que Dieu n'est pas plein de bonté pour tous ceux qui l'invoquent, doit être considéré comme une vaine idole. Jonas a dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde » Jonas 2:9. Au lieu d'écouter Satan et de surveiller l'évolution de nos symptômes, nous devons être des ouvriers avec Dieu, qui guérit en envoyant sa parole et en la confirmant. Nous devons coopérer avec lui en nous occupant non pas de ce que dit le diable, mais de la parole que le Seigneur nous envoie pour nous guérir. Les symptômes peuvent persister. Même quand nous mettons notre foi en action, les symptômes ne disparaissent pas toujours instantanément. Après que Zéchia fut guéri, il dut encore attendre 3 jours pour avoir assez de force pour monter à la maison de l'Éternel. Dans Jean 4:50-52, L'officier du roi crut à la parole que Jésus lui avait dite. Mais quand il rencontra ses serviteurs, il leur demanda à quelle heure son fils mourant s'était trouvé mieux. La Bible fait une différence entre le don des miracles et le don des guérisons. Christ ne put faire aucun miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité, mais il guérit quelques malades. Si tous les malades étaient parfaitement guéris instantanément, le don des guérisons ne pourrait pas s'exercer, il n'y aurait que des miracles. Beaucoup de gens passent à côté de leur guérison en essayant de limiter Dieu à un miracle. Le Seigneur promet que les malades seront guéris, mais il ne dit pas que ce sera toujours instantanément. Les symptômes de vie continuent à se manifester dans un arbre pendant un certain temps, après qu'il ait été coupé. Par la foi, nous restons confiants que nous possédons ce que nous ne voyons pas encore. Confiants, parce que Dieu, qui ne peut pas mentir, a parlé. Combien cette raison est parfaitement suffisante pour croire la foi est donc la chose la plus rationnelle au monde. Ce n'est pas, comme certaines personnes irréfléchies le disent, croire sans avoir aucune garantie, mais c'est croire parce que nous possédons la meilleure garantie possible, la parole de Dieu, qui subsiste dans les cieux. Psaume 119:89. Jacques dit : Moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Jacques 2:18. Avoir la foi, par conséquent, c'est être tellement convaincu de l'absolue vérité des déclarations de Dieu, telles qu'elles sont rapportées dans la Bible, que nous agissons selon ces déclarations. La foi est en même temps rationnelle et sûre. Y a-t-il quelque chose de plus rationnel, de plus sûr et certain que la foi? Avoir la foi, c'est recevoir la promesse écrite de Dieu comme un message qu'il nous adresse directement et personnellement. Cette promesse écrite a pour nous la même valeur que si Dieu nous apparaissait pour nous dire « J'ai entendu ta prière ». La parole de Dieu devient vie pour notre corps de la même manière qu'elle devient vie pour notre âme, lorsque nous croyons en sa promesse. J'ai connu certaines personnes qui ont prié pour leur guérison pendant 40 ans, sans jamais la recevoir, et qui ont vu cette guérison se manifester quelquefois instantanément, lorsqu'on leur enseignait à la saisir par la foi. Nous n'avons pas besoin de prier pendant 40 ans, ni même pendant une semaine, pour avoir une bénédiction que Christ désire ardemment nous donner. Ce désir de nous guérir, dans son cœur compatissant, est bien plus grand que notre propre capacité à désirer cette guérison. Mais c'est nous qui le faisons attendre, tant que nous n'avons pas cette foi qui vient de ce que l'on entend, et tant que nous ne la mettons pas en action, car Dieu ne triche jamais et ne joue jamais avant son tour lorsque nous avons compris que Jésus, sur la croix, s'est chargé de nos maladies comme de nos péchés, et que nous n'avons donc plus besoin de les porter. Notre étape suivante est de saisir cette vérité par la foi, ce qui est la seule manière conforme à l'Écriture. La vérité est que Dieu, il y a près de 2000 ans, nous a déjà donné cette partie de notre héritage, et c'est lui qui attend que nous saisissions cette bénédiction par la foi. Il y a 2000 ans, Dieu a effacé le péché. Il y a 2000 ans, Dieu a frappé Christ pour l'iniquité de nous tous. Il y a 2000 ans, Christ a porté nos maladies, et s'est chargé de nos douleurs. C'est Dieu qui attend, il attend que l'on nous montre comment saisir par la foi une bénédiction qu'il a déjà donnée dans 2 Pierre 3:9. Il est écrit : Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous. En d'autres termes, il n'est pas lent à accomplir ses promesses. C'est nous qui sommes lents, et c'est lui qui est patient envers nous. La plupart d'entre nous auraient pu être sauvés plusieurs années avant que nous ayons accepté le salut. Ce n'était pas Dieu qui nous faisait attendre, mais c'était nous qui le faisions attendre. Il en est de même pour notre guérison. Quand nous prions, pas après. Dans Marc 11:24, Jésus nous dit exactement comment saisir par la foi une bénédiction qu'il nous a acquise par sa mort. Après avoir promis de nous donner tout ce dont nous aurions besoin, il nous dit : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Pas après avoir prié pendant 20 ans, pas lorsque vous ne sentirez plus rien, mais en priant, alors que vous vous sentez encore malade, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La condition pour que nous recevions ce que nous demandons à Dieu est de croire qu'il répond à nos prières au moment où nous prions, et que nous serons guéris selon sa promesse. En d'autres termes, quand vous priez pour être guéri, Christ vous autorise à considérer votre prière comme exaucée, de même qu'il a dit, devant la tombe de Lazare, je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé, avant même de voir Lazare sortir de la tombe. Quand nous demandons la guérison, Christ nous autorise à dire, par la foi je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé, avant même de voir la réponse à notre prière. Quand la parole de Dieu est notre seule raison de croire que notre prière a été exaucée, avant même de sentir ou de voir quoi que ce soit, c'est cela la foi. Jésus a déclaré, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, Jean 6, 63. Jean a dit la parole était Dieu, Jean 1, 1. La foi, c'est recevoir les paroles de Christ écrites dans la Bible comme un message qui nous est directement adressé. C'est ainsi que la parole de Dieu devient vie pour nous, que ce soit pour notre guérison ou notre salut. Dieu nous donne la nouvelle naissance lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous le recevons par la foi. C'est de la même manière que la guérison divine est donnée à notre corps. La foi précède toujours la vue, ou la sensation. Si nous nous écartons de cette règle divine, nous ne verrons jamais s'accomplir ce que nous désirons. 1 Thessaloniciens 2:13 nous dit que la parole de Dieu agit en ceux qui croient. La parole commence à agir en nous dès qu'elle nous a convaincus que notre prière est exaucée, avant même que nous ayons vu l'exaucement. La parole de Dieu ne manque jamais d'agir ainsi en ceux qui l'acceptent comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu, parce qu'ils refusent de douter qu'elle s'accomplira dans leur vie. Dieu a donné toutes ses bénédictions à la foi, il n'en a laissé aucune pour l'incrédulité. Quand on me dit « je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu de me guérir », je réponds « est-ce la volonté de Dieu de tenir ses promesses ?» Si nous sommes en règle avec Dieu, nous devrions avoir la même attitude que lorsque quelqu'un nous fait une promesse. Nous ne nous demandons pas alors « ai-je assez de foi ?» mais nous nous demandons « est-ce une personne digne de confiance ?» Cela ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de la fidélité de Dieu. Les Écritures disent « si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous écoute ». Est-ce vrai ou pas? Dieu exauce-t-il la prière? Si vous continuez à croire fermement que vous avez reçu Marc 11, 24 ce que vous avez demandé, et si vous mettez votre foi en action, chacun d'entre vous recevra sa guérison, bien que cela ne soit pas toujours instantanément. Puisque la guérison est reçue par la foi, et que la foi sans les œuvres est morte, c'est lorsque nous commençons à mettre notre foi en action que Dieu commence à guérir. Notre foi fait agir Dieu. C'est notre œuvre de foi qui fait agir Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons pas tous agir de la même manière. C'est en chemin que les 10 lépreux furent guéris. Jonas, dans le ventre du poisson, ne pouvait pas se déplacer, mais il a mis sa foi en action en déclarant « je t'offrirai des sacrifices » avec un cri d'action de grâce. Quand nous mettons notre foi en action en louant et en remerciant Dieu à l'avance, c'est alors que nous saisissons les bénédictions que Dieu nous a promises, et c'est ainsi que Dieu veut que nous nous comportions. Hébreux 3:15 nous enseigne que nous devons offrir au Seigneur des sacrifices d'action de grâce pour les bénédictions qu'il nous promet et que nous attendons, avant même de les voir. Il est écrit au psaume 50415 « offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Comme pour Jonas, il nous est demandé ici d'offrir des actions de grâce alors que nous sommes encore dans la détresse. Venons en sa présence avec des actions de grâce. Cela ne veut pas dire que nous devons attendre d'être effectivement guéris pour venir en sa présence et le remercier, mais nous devons venir le remercier pour notre guérison, alors qu'elle n'est pas encore manifestée. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, et dans ses parvis avec des louanges. Toutefois, la foi, ce n'est pas rendre grâce. La foi, c'est avoir avant de voir. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire ou louange, Ésaïe 60:18. Sans louer Dieu, sans lui rendre gloire et grâce, c'est comme si nous étions devant une muraille sans porte. Mais quand nous commençons à louer Dieu, et à saisir la bénédiction par la foi, nous ouvrons une porte et nous pénétrons à l'intérieur. Les disciples étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, non pas après, mais avant d'avoir été remplis du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsqu'ils s'unirent d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, que la gloire de l'Éternel remplit la maison de Dieu. 2 Chrons 5 13 14. Faites écouter vos louanges à Satan. Au lieu d'écouter le Père des mensonges, faites-lui plutôt écouter les louanges que vous adressez à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Psaume 156. Un malade respire en d'autres termes, louez-le même si vous êtes encore malade, parce que vous allez recouvrer la santé, selon sa promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Tout malade chrétien, tout en étant malade, a mille fois plus de raisons d'être heureux que le pécheur en bonne santé le plus joyeux. Que Dieu soit loué, la foi sans les œuvres est morte. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 18. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34 1. Puisque tout ce qui respire doit louer l'Éternel, la seule excuse scripturaire pour ne pas le louer serait de ne plus respirer par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13 15. Celui qui loue Dieu le glorifie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Psaume 63 3. Il faut le louer, car il est bon de louer l'Éternel. Ne pas le louer, c'est faire preuve d'incrédulité ou d'ingratitude. La louange sied aux hommes droits. Psaume 33 1. Louez-le, car il siège au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22 4. Paul et Sylla chantaient les louanges de Dieu en pleine nuit, alors que leur dos était tout ensanglanté et leurs pieds dans les fers. Dieu les a accompagnés de la grosse voix d'un tremblement de terre, et les a libérés. La foi véritable se réjouit des promesses de Dieu comme si elle voyait la délivrance. Lorsque trois grandes armées vinrent attaquer Josaphat, cela signifiait, d'un point de vue humain, la destruction d'Israël. Pourtant, ils ont loué le Seigneur à haute voix, alors que la seule preuve que leur prière avait été entendue était la pure parole de Dieu, qui, en outre, leur parvenait au travers de lèvres humaines. Le lendemain, lorsqu'ils allèrent à la rencontre des ennemis, ils commencèrent à chanter et à louer l'Éternel. Dieu agit alors, et plaça une embuscade contre leurs ennemis, qui furent battus. 2 Chroniques 20-18-22. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1-19-21. De même que, dans le jardin d'Éden, l'ennemi a réussi à détourner l'homme de la connaissance de ce qui lui arriverait s'il mangeait le fruit défendu. De même, aujourd'hui, il tente de détourner l'homme de la connaissance de ce qui lui arriverait s'il avait la foi en l'Évangile. Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2 17. Mais le serpent dit vous ne mourrez pas. Genèse 3 4. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit clairement ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16 18. Et le même serpent cherche à persuader les malades qu'ils ne guériront pas. Est-il plus rationnel de croire le Père des mensonges, plutôt que le Fils de Dieu, qui est la vérité incarnée? Si vous venez chercher auprès de Dieu le salut ou la guérison, il est essentiel que vous décidiez si vous allez permettre au sifflement du serpent de couvrir la voie de Dieu. Lorsque vous avez reçu l'onction d'huile pour la guérison, si Satan vient vous dire que vous n'allez pas guérir, faites comme Jésus, et dites-lui il est écrit ils seront guéris. Le Seigneur le relèvera. Jacques 5 14. Dans ce même passage, l'onction faite au nom du Seigneur signifie qu'elle a la même valeur que si le Seigneur lui-même était venu vous oindre d'huile. Attendez-vous à ce qu'il honore ses propres ordonnances et sa promesse. Pourquoi écoutez-vous le diable? Lorsque le diable a tenté Jésus, tout ce qu'il a entendu de la bouche du Seigneur, c'est « il est écrit, il est écrit, il est écrit » Matthieu 4 4, 7, 10. Alors le diable le laissa. Matthieu 4:11. Mais tout ce que nous entendons, dans la bouche de certains, c'est le diable a dit, le diable a dit, comme si les paroles de Christ avaient moins de poids que celles du diable. La meilleure manière de résister au diable est de faire ce que Jésus a fait. N'essayons pas d'utiliser une autre manière, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4:27. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4:7. Il n'y a qu'une seule façon de résister au diable, en ayant une foi ferme et en agissant selon la parole de Dieu. Lorsqu'une voix vous influence plus que la voix de Dieu, vous vous êtes déjà écarté du chemin de la guérison divine. Pour quelle raison douteriez-vous? Vous n'avez pas plus de raison de douter que n'en a le pécheur, lorsqu'il se repent et demande pardon pour ses péchés. Vous avez exactement les mêmes raisons de vous attendre à être guéri que de vous attendre à être sauvé. Vous avez la parole de Dieu, et si vous ne pouvez pas l'accepter au point d'agir en vous appuyant sur elle, c'est que votre foi est encore bien loin de ce qu'elle devrait être. La foi s'appuie sur la compassion du Seigneur. Quel ferme appui pour la foi que la compassion du Seigneur, puisque Christ nous a rachetés de la maladie, nous pouvons certainement avoir confiance en son amour et en sa fidélité. Notre foi peut se fonder et s'appuyer en toute assurance sur la croix. Je ne me rappelle pas qui a dit « rejetons par la foi la maladie, comme nous rejetons le péché ». Un chrétien consacré ne tolérera pas le péché un seul instant dans sa vie. Et pourtant, combien certains sont tolérants envers la maladie, ils préfèrent même entretenir et nourrir leurs souffrances et leurs douleurs, plutôt que de leur résister en les considérant comme des œuvres du diable. Quand Jésus s'est écrié « Tout est accompli », il annonçait la victoire sur le péché, le chagrin et la misère physique de la race d'Adam. Et il a offert à chacun de nous le don du Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre et de recevoir le grand salut qu'il nous avait acquis. Ce tout est accompli est l'affirmation d'une réalité absolue et éternelle, qui apporte la délivrance si elle est reçue avec foi, sans douter. C'est pour notre plus grande perte que le serpent continue à nier cette déclaration de Jésus-Christ, et c'est exactement de la même manière qu'il a entraîné Ève à négliger et à oublier les paroles que Dieu lui avait pourtant clairement dites. C'est en comprenant que nous avons été rachetés de la maladie par la crucifixion que notre Seigneur a dû subir dans son corps, et en croyant et acceptant de tout notre cœur ce que Dieu déclare dans sa parole écrite à ce sujet, que le Saint-Esprit nous permettra de bénéficier personnellement du ministère de guérison de Christ. Les résultats actuels de la foi en Dieu. C'est en suivant ces instructions que des milliers de personnes ont reçu la guérison, alors qu'on leur avait auparavant enseigné que l'âge des miracles était passé et que Dieu voulait qu'elles restent malades pour sa gloire, et se taira. Des aveugles nés voient. Des sourds et muets de naissance entendent et parlent, des handicapés de naissance sont parfaitement guéris. Ceux qui étaient épileptiques depuis des années sont à présent libérés et heureux de l'être. Beaucoup de cancéreux qui se mouraient de leur cancer sont maintenant guéris, et prient la prière de la foi pour d'autres. Dieu ne fait pas exception de personne. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2:21. Ceci ne peut jamais être vrai si nous sommes cloués au lit par la maladie. La nouvelle alliance de Dieu a tout prévu pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3:17. Nous ne pouvons pas être propres à toute bonne œuvre si nous sommes malades. Cela nous montre donc que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. En réalité, il le désire ardemment. Le Seigneur ne peut pas garder son alliance avec nous sans ôter nos maladies ni accomplir le nombre de nos jours, selon sa promesse. Puisque nous avons été guéris par ses meurtrissures, n'oublions pas le prix qu'il a dû payer pour notre guérison. Mais montrons-lui notre reconnaissance et notre amour. Consacrons-nous à son service. Appuyons-nous fermement sur ses promesses, et faisons résonner la trompette de notre foi et de nos actions de grâce, jusqu'à ce que les murailles de nos maladies s'écroulent. La foi n'attend pas que les murailles tombent pour crier, la foi crie, et les murailles tombent. Chapitre 6 La foi vivante. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul nous dit exactement comment Dieu accomplit des miracles. Celui Dieu qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates 3:5-7. Dans ce passage, Dieu nous dit qu'il accomplit des miracles dans notre corps exactement de la même manière que dans nos âmes, c'est-à-dire par la foi en sa parole que nous entendons. En fait, Dieu accomplit toutes choses en faisant d'abord une promesse, puis en l'accomplissant chaque fois qu'elle produit la foi. Il dit qu'il en est pour nous comme pour Abraham. Il est donc important de bien voir ce qu'a fait Abraham. Romains 4:18-22. Il crut tout simplement en la parole de Dieu. Il avait la foi que Dieu ferait exactement ce qu'il avait promis. Il avait une pleine conviction, et cette conviction ne s'appuyait que sur la parole de Dieu. Il ne douta point, par incrédulité, et garda la foi lorsque celle-ci fut mise à l'épreuve dans son problème. Il ne considéra que la parole de Dieu. Il garda confiance en Dieu lorsque Dieu lui demanda d'offrir Isaac en sacrifice, alors qu'Isaac était l'unique encouragement visible de sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Aucune de ces raisons ne fut suffisante pour le faire douter qu'il aurait un fils. Selon les lois de la nature, il était impossible qu'Isaac naisse, mais cela ne fit pas le moins du monde douter Abraham. Il connaissait son âge. Il savait que Sarah était stérile. Il avait pesé les difficultés. Mais, face à l'impossible, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Romains 4:20-21. Remarquez bien que c'est en continuant à regarder à la promesse de Dieu qu'Abraham s'est fortifié par la foi. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21:9. Dieu avait demandé aux Israélites mourants de fixer du regard le serpent d'airain, s'ils voulaient être guéris. Le remède était le même que dans le cas d'Abraham. Il fallait croire en la promesse de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu pour être guéris, assurons-nous d'avoir la même attitude, car aucune guérison ne nous sera donnée si nous ne remplissons pas cette condition. Notre foi n'est pas une foi vivante, si elle s'appuie sur le fait que nos souffrances ont diminué, ou si nous surveillons l'évolution de nos symptômes, au lieu de ne considérer que la parole de Dieu. Si nous nous laissons influencer par ce que nous voyons ou sentons, nous faisons exactement le contraire de ce que le Seigneur nous demande de faire. Quiconque regardait conservait la vie. Cela signifie que celui qui, comme Abraham, ne s'occupe que de la promesse de Dieu, sans être aucunement troublé par les symptômes, est celui que Dieu guérit. Cela signifie que notre foi ne doit s'appuyer que sur la parole de Dieu, et non sur ce que nous voyons ou sentons. Tant que Dieu ne nous a pas retiré sa parole, continuons à regarder à la promesse, car c'est une bonne raison pour nous attendre à la miséricorde de Dieu. Remarquez que c'est parce qu'il a regardé continuellement à la promesse qu'Abraham a reçu son miracle. Si nous sommes influencés par nos symptômes, au lieu d'être influencés par la parole de Dieu, cela revient à douter de la véracité de Dieu. La foi d'Abraham ne s'appuyait sur rien de visible. Veillons à ce qu'il en soit bien de même pour nous. Tout ce qu'Abraham pouvait voir était contraire à ce qu'il espérait. Par la suite, après la naissance d'Isaac, Abraham avait un encouragement visible pour sa foi, car c'était par Isaac que toutes les nations de la terre seraient bénies. Isaac était le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa promesse, et, tant qu'Abraham avait les yeux fixés sur Isaac, il lui était facile de croire en la promesse. Aussi Dieu mit-il la foi d'Abraham à l'épreuve, en lui demandant d'offrir Isaac en sacrifice, ce qui devait détruire le fondement visible de la foi d'Abraham. Ceci ne fit pas reculer Abraham. Une foi réelle et vivante tient bon dans l'épreuve. Puisque Dieu ne lui avait pas retiré sa parole, il était prêt à être privé de tout encouragement visible pour sa foi, tout en continuant à être pleinement convaincu. Il a fallu que Dieu l'arrête, car il aurait sacrifié Isaac. Cette épreuve fut le moyen choisi par Dieu pour perfectionner la foi d'Abraham, et non pour la détruire. Si vous venez à Dieu pour être guéri, et si le Seigneur voit que vous êtes plus encouragé par l'amélioration de votre état que par sa parole, il peut juger nécessaire de mettre votre foi à l'épreuve, afin de vous enseigner une glorieuse leçon, celle de croire à sa parole, même si tous vos sens la contredisent. La foi ne s'occupe que de la parole de Dieu. Dans Hébreux 10, 35-36, Dieu dit à tous ceux dont la foi s'appuie sur sa parole: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3-14. En contradiction avec cette attitude, j'ai entendu certains malades dire d'un ton déçu, après avoir reçu l'onction d'huile et la prière, et au lieu de se réjouir de la promesse de Dieu, j'étais pourtant sûr d'être guéri. Je voyais alors immédiatement qu'ils n'avaient absolument pas compris ce qu'était la foi. Dans leur esprit, leurs symptômes devaient disparaître, pour qu'ils croient que Dieu les avait exaucés. Si la parole de Dieu avait été leur unique raison de leur attente, ils auraient gardé leur ferme assurance jusqu'au bout. Il n'est ni juste ni raisonnable d'abandonner votre assurance, tant que vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu. Dieu nous a promis que nous serions participants de Christ, mais seulement à condition que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant toute la période qui s'est écoulée entre la promesse de Dieu et son accomplissement, au lieu d'observer ses symptômes et d'abandonner son assurance, parce qu'il n'avait rien de visible sur quoi appuyer sa foi, Abraham fit exactement le contraire. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 80. Après avoir marché autour des murailles de Jéricho, Josué et les enfants d'Israël n'ont pas abandonné leur assurance parce que les murailles de la cité étaient encore debout. Leur foi s'appuyait sur la parole de Dieu: j'ai livré Jéricho entre vos mains. Si aucun de tout cela n'a abandonné son assurance, pourquoi devriez-vous abandonner la vôtre? Votre état d'esprit devrait être le même que celui de Noé, lorsqu'il construisait son arche sur la terre ferme, et qu'il colmatait les fentes pour que l'eau n'y pénètre pas. Dans son esprit, il était pleinement persuadé que le déluge allait venir, et la parole de Dieu était sa seule raison d'avoir cette assurance. Votre état d'esprit devrait être celui d'Abraham. Pour lui, la naissance d'Isaac était quelque chose de certain, même si tous les symptômes apparents étaient contraires. En ce qui concerne votre guérison, la parole de Dieu qui vous a été adressée est aussi claire et aussi explicite que celle qui avait été adressée à Abraham. Dans Marc 11:24, Jésus nous dit exactement quelles sont les conditions nécessaires pour recevoir n'importe quelle bénédiction de Dieu. Il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Cela signifie que vous ne le verrez s'accomplir que si vous croyez qu'il a entendu votre prière. Vous le verrez s'accomplir et la réponse que Jésus vous donne personnellement, et c'est aussi la preuve que votre prière a été entendue. Pour la foi, la parole de Dieu est la voix de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas promis que notre guérison commencerait avant que nous ayons cru qu'il a entendu notre prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean 5:14. Si vous dites que cela est vrai, alors croyez que votre prière a été entendue au moment où vous priez sincèrement. Nous devons pouvoir dire: nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, non pas parce que nous voyons la réponse, mais parce que Dieu est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il n'est jamais bon de faire reposer notre foi sur l'amélioration de nos symptômes après la prière. J'ai entendu certains dire avec délice: oh, je vais tellement mieux depuis qu'on a prié pour moi, je sais maintenant que je vais guérir. Ceci signifie qu'ils ont d'autres raisons que la seule parole de Dieu pour attendre leur guérison. Rien n'est meilleur que la parole de Dieu pour notre foi. Supposez qu'un malade sente ses douleurs diminuer de moitié après que j'ai prié pour lui. Il ne doit pas plus considérer cette amélioration comme une raison suffisante pour croire qu'il va guérir, que si ses douleurs avaient augmenté de moitié après la prière. Supposez que vous promettiez quelque chose à quelqu'un, et que vous réalisiez un peu plus tard que cette personne s'attend à recevoir ce que vous avez promis, non pas parce que vous l'avez promis, mais pour quelque autre raison. Cela vous attristerait, car cela vous prouverait qu'elle ne fait pas confiance à votre parole. Cela honore Dieu si l'on croit à sa parole, même si tous nos sens nous disent le contraire. Dieu promet d'honorer seulement la foi produite par sa parole, et fondée sur sa parole. Certains croient qu'ils ont été entendus seulement lorsqu'ils commencent à aller mieux. Dieu n'a pas dit qu'il nous donnerait de meilleures sensations pour produire en nous la foi nécessaire pour être guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est Dieu lui-même qui nous a envoyé sa parole. Nous n'avons pas eu besoin de la lui extorquer de force comme il est absurde, par conséquent, de douter de cette parole. Est-il plus rationnel d'attendre que Dieu honore sa parole, ou d'attendre qu'il la viole? En vérité, rien n'est plus ridicule ou absurde que de permettre à des symptômes ou des sensations de nous faire douter de l'accomplissement des promesses de Dieu. Apprendre à croire que Dieu nous entend lorsque nous prions est une bénédiction bien plus grande que la guérison elle-même. Car si nous savons prononcer la prière de la foi, nous pourrons la répéter à des milliers d'occasions, pour les autres et pour nous-mêmes. Et notre vie tout entière sera ainsi passée à obtenir l'accomplissement des promesses divines. Nous avons vu comment Abraham a obtenu un miracle. Et Dieu dit qu'il en sera de nous comme d'Abraham. Nous pouvons donc tous, de la même manière, recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous qui marchons sur les traces de la foi de notre père Abraham. Romains 4:12. La vue de la foi. Nous lisons dans Hébreux 11:23-27 que Moïse se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Si l'on considère notre nerf optique, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais si l'on considère les yeux de notre entendement, la foi est la démonstration des choses que nous voyons. Marcher par la foi, c'est marcher par une vue bien meilleure que la vue physique. Nous devons passer notre vie à regarder à des choses bien meilleures que celles que nous voyons de nos yeux physiques. Après tout, c'est notre cerveau qui voit, et pas notre nerf optique. Vous ne pouvez pas voir votre argent sur votre compte en banque, si ce n'est en pensée. Lorsque vous tirez un chèque, c'est par la foi en ce que vous voyez, non pas de vos yeux physiques, mais dans votre pensée. La foi est la chose la plus rationnelle au monde, parce qu'elle s'appuie sur la plus grande des réalités. Elle voit Dieu, elle voit le calvaire, où le péché et la maladie ont été anéantis. Elle voit les promesses et la fidélité de Dieu, qui sont plus fermes que les fondements d'une montagne. La foi voit la santé et la force, qui nous ont été acquises à la croix, comme nous appartenant déjà. La foi accepte ses paroles. Il s'est chargé de nos douleurs, il a porté sur lui nos maladies, et elle agit conformément à ses paroles. La main de la foi saisit ce que voit l'œil de la foi. La foi dit: ceci m'appartient, parce que Dieu l'a promis. La foi refuse de voir tout ce qui n'est pas en accord avec la promesse de Dieu. Les glorieuses réalités de la foi. C'est une grave erreur que de supposer qu'une chose n'est pas réelle parce que nos yeux physiques ne peuvent pas la voir. Supposez que je vous bande les yeux et que je vous conduise dans la rue. Vous ne voyez pas le sol sur lequel vous marchez, mais il est pourtant tout aussi réel que si vous le voyez. À chacun de vos pas, vous mettez votre foi en action, et votre foi est bien la démonstration des choses que vous ne voyez pas de vos yeux physiques. Vous vous contentez de voir en pensée les choses que je vois pour vous et que je vous décris. Les grandes vérités spirituelles que Dieu voit, et dont il nous parle, sont tout aussi réelles que si nous pouvions les voir de nos yeux physiques. Parce qu'elles s'appuient sur Dieu, sur sa fidélité, et sur ses promesses, la foi est le terrain le plus solide sur lequel vous puissiez vous tenir. Pour un homme qui n'est pas éclairé, ou qui ne voit pas les promesses de Dieu, la foi, c'est sauter dans le vide. Mais pour ceux qui croient en la parole de Dieu, la foi, c'est marcher sur les fondements de l'univers. Parce qu'ils se sont simplement appuyés sur la seule parole de Dieu, Des millions de pécheurs ont été arrachés du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Des millions d'hommes ont été aussi transportés de ce monde dans le ciel. La promesse de Dieu a été pour eux plus sûre, pour les conduire au ciel, qu'un escalier de pierre qu'ils auraient pu voir de leurs yeux. Jésus nous dit qu'il est venu pour que les aveugles qui ne peuvent voir de leurs yeux physiques voient de l'œil de la foi. Après être monté au ciel, où l'œil naturel ne peut plus le voir, il nous a conseillé d'acheter un collyre pour oindre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir Apocalypse 3:18. Lorsque Pierre eut fait cela, les choses qu'il voyait par sa nouvelle vue spirituelle lui ont fait éprouver bien plus de joie que tout ce qu'il voyait de ses yeux physiques. Marcher par cette meilleure vue est la chose la plus heureuse qui puisse nous arriver sur cette terre, parce que les réalités spirituelles que nous contemplons constamment sont bien supérieures aux réalités naturelles, et bien plus aptes à nous donner une joie surnaturelle. Il est important de comprendre qu'une foi vivante ne s'intéresse qu'à la puissance et à la miséricorde de Dieu, et pas aux faiblesses humaines. Dieu nous invite à nous appuyer sur sa force. Il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué » Ésaïe 40:29. Il dit aussi que le faible dise « Je suis fort » Joël 3:10. C'est en lui obéissant et en faisant cela, sur l'autorité de sa parole, que nous possédons sa force, même lorsque nous nous sentons faibles. C'est alors que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse de Corinthiens 12:9. Nous devons croire à ce que Dieu dit malgré ce que nous pouvons sentir. Les six sens. Un parfum n'existe pas pour le sens de l'ouïe. De même, ce que nous saisissons par la foi, selon Marc 11:24, n'existe pas pour nos cinq sens naturels. Vous ne dites pas qu'une chose que vous voyez n'existe pas, simplement parce que vous ne pouvez ni la sentir, ni la goûter, ni l'entendre puisque la foi est comme un sixième sens. Pourquoi donc douter de ce que vous avez saisi par la foi, simplement parce que vous ne pouvez pas encore le voir ou le sentir? Nos cinq sens naturels appartiennent à l'homme naturel, dont Paul nous dit qu'il ne peut pas connaître les choses de Dieu.